Bien, la lecture ne sera pas très longue. Un verset. Pour le second exposé, un verset. Mais quel verset? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je vais le lire d'abord dans la version Darby. C'est la plupart d'entre nous utilisons cette Bible. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Je vais prier brièvement à nouveau. Parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu ouvres nos cœurs, que tu parles, Seigneur. On l'a chanté. Parle-nous. Bien, maintenant, Seigneur, c'est le temps de mettre en pratique ce que nous avons chanté et vraiment nous désirons que tu nous parles. Merci pour ce verset d'une telle richesse et profondeur. Mais Seigneur, nous aimerions qu'il soit vrai, vrai dans nos vies. Seigneur, transforme-nous, change-nous, que l'on ne soit plus la même personne ce soir, demain et après-demain, de plus en plus, pour ressembler à ton Fils. Voilà le but, la prédestination. C'est bien ce que ça nous dit dans la Bible, d'être conforme à l'image de Christ. Oh, combien on voit, il y a du travail à faire. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi et nous voulons t'obéir. Alors Seigneur, agis au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai comparé ce verset dans une quinzaine de versions différentes de la Bible, version française. Et puis celle, à mon sens, qui se rapproche vraiment le plus du texte original, dans le grec, eh bien, c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est la version seconde 1910. Pour ce verset-là, d'une façon vraiment toute particulière. Et j'ai comparé la version seconde 1910 avec une Bible qui me sert pratiquement de ligne directrice depuis qu'elle est publiée maintenant. C'est une Bible en anglais qui s'appelle « Legacy Standard Bible ». Elle est extraordinaire, cette Bible. En anglais, malheureusement, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est dommage un peu, mais franchement, elle est vraiment hyper littérale, vraiment bien faite, se lit bien aussi. Et j'ai trouvé que ce verset-là, dans la seconde 1910, était identique à la Standard Bible. 100% identique. Hein? Alors, j'ai mis le texte à l'écran, puis vous voyez qu'il n'y a pas tellement de grandes différences, mais quand même, il y a quelques nuances sur lesquels je vais m'arrêter en cours de route. Je relis le verset. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. » Il est très intéressant ce texte et mon exposé va être vraiment simple. Je veux reprendre mot par mot, ou expression par expression, ce verset est souligné de quoi il nous parle tout simplement. Je ne vais rien inventer, en fait. Je vais simplement souligner ce que le texte sous nos yeux nous dit et en mettant en évidence, en texte bleu et gras, si c'est bleu, là, moi je suis daltonien, j'espère que c'est bleu. Donc, une partie du verset. Et maintenant, dans ce passage, tout ce que je veux souligner, c'est « nous tous ». Et c'est pas merveilleux, ça! Il n'y a pas d'exception! C'est nous tous, vraiment nous tous, qui avons ce privilège de contempler le Seigneur et de voir nos vies être transformées. D'avoir une vie changée, transformée, n'est pas réservé à une élite dans l'Assemblée, à ceux qui seraient plus spirituels que les autres, qui auraient un statut un peu différent ou qui auraient des capacités et des rôles particuliers. Non, non, c'est nous tous. C'est très simple, hein? Mais cela relève le privilège que tous les croyants ont par la grâce de Dieu que leur vie puisse être transformée par Christ. Et ça, c'est un immense privilège. qu'on devrait réaliser. Vous ne devez pas penser à votre voisin et à vous dire, « Ah, c'est, oui, c'est vrai, lui, des grandes choses, il fait des grandes choses. » Rien à voir. On ne parle pas d'œuvre. On ne parle pas d'être plus activiste. On parle de vie transformée dans le caractère et l'attitude qui fait qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Et ça, c'est nous tous. La deuxième partie du verset insiste sur les mots « qui le visage découvert ». Littéralement, ça signifie « le visage étant dévoilé ». Au sens littéral, ça présente l'image d'une personne sur qui, en fait, sur la tête d'une personne, on déposerait un voile qui couvrirait toute la tête jusqu'en bas du visage. Et donc, la personne a vraiment la tête voilée, en ce sens qu'elle ne peut plus voir. Mais c'est au sens figuré que l'apôtre Paul va employer ce terme ici, le visage étant dévoilé. Il parle de pouvoir contempler sans obstacle la gloire du Seigneur. Et c'est pour qui? Nous tous. Tous les croyants ont ce privilège de pouvoir contempler sans obstacle. Il n'y a plus de voile. Ils peuvent regarder le Seigneur. Vous pouvez voir le Seigneur. Vous pouvez le contempler. Nous allons voir de quelle manière en particulier dans quelques instants. Pourquoi? Parce que le Seigneur a ouvert nos yeux. Et c'est comme si, graphiquement, il avait enlevé ce voile qui était l'aveuglement spirituel. Et maintenant, à cause de cela, nous avons pu voir un jour le Seigneur par la foi. Et depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons ce privilège de contempler le Seigneur, de le regarder, de le découvrir sans aucune barrière humaine. Il n'y a personne sur cette terre qui peut vous empêcher de contempler le Seigneur. Parce que même en le connaissant, si on vous enlevait la Bible, si on vous enlevait l'Assemblée, si on vous enlevait tout et on vous isolait, vous êtes toujours en présence du Seigneur. Et vous avez encore le privilège de le contempler dans votre cœur. C'est vrai qu'il y a quand même une chose qui peut nous empêcher de voir le Seigneur. Et ce n'est pas une personne, c'est le péché. C'est vrai que le péché peut nous empêcher de voir le Seigneur, dans une mesure. Mais si nous confessons nos péchés, nous savons ce que la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il enlève le péché et à nouveau, nous avons la pleine liberté de le contempler de nos yeux, de le voir par la foi, bien entendu. Il ne faut pas laisser le monde, il ne faut pas laisser le malin, ni le mal. 3M, c'est plus facile pour la mémorisation. Le monde, le malin, le mal sont des choses qui peuvent susciter ou créer un obstacle dans notre vision du Seigneur, nous aveugler spirituellement en quelque sorte, et nous ne devons pas laisser faire ces choses. Le problème, c'est que souvent on ne se rend pas compte de ce qui bloque ou crée un obstacle ou descend un voile sur nos yeux pour nous empêcher de voir le Seigneur. Et on peut même avoir l'impression de le voir encore. Mais parfois, on se leurre. S'il y a péché, il doit être tout de suite confessé et abandonné. On tombe tous. Mais il faut se relever et dire au Seigneur, « Je te confesse péché, je l'abandonne, je veux marcher avec toi. » Et le Seigneur s'offre à nous à nouveau et nous pouvons à nouveau le contempler. Et cela se fait, dans la suite du verset, comme dans un miroir. Nous le contemplons comme dans un miroir. Il y a cette image d'un miroir dans 1 Corinthiens 13, 12, mais ce n'est pas la même image. Parce que dans 1 Corinthiens 13, le reflet est obscur. En fait, l'image est obscure. L'image n'est pas bien rendue. En fait, on parle probablement d'un matériau quelconque qui faisait en sorte que ça ne rendait pas parfaitement l'image. Et donc, on parle de quelque chose qui est plutôt obscur. Mais ici, l'image du miroir n'a pas du tout le même sens. Elle parle de contempler quelqu'un face à face et contient cette notion d'intimité aussi. Paul dit que les chrétiens ont le privilège de contempler le Seigneur, d'avoir une communion personnelle et intime avec lui. Comme dans un miroir. Il est où ce miroir? Il est ici. C'est ma Bible. quand je lis ma Bible, je suis en train de contempler le Seigneur. Mais dans le sens de miroir, on va le voir dans quelques instants. Normalement, c'est nous qu'on voit dans un miroir. Mais en même temps que la Bible, comme un miroir, nous montre qui nous sommes vraiment et quel travail il y a à faire, elle nous montre Christ sans obstacle. Et donc, nous pouvons, dans le miroir de la Bible, contempler la gloire du Seigneur. Qui ça? Nous tous. Quel privilège nous avons. Découvrir la personne de Christ dans toute sa gloire. C'est ce que le verset dit ensuite. Il nous parle de la gloire du Seigneur. C'est vrai qu'en regardant dans ce miroir qu'est la Bible, on se voit nous-mêmes aussi. On voit surtout qu'on est pécheur. Bon, on a besoin d'être transformé, d'être changé. C'est une bonne une nouvelle en soi parce que, en fait, ça va nous éviter de demeurer comme nous sommes. Mais nous avons le privilège de voir la gloire du Seigneur. Nous voyons la gloire du Seigneur. On dirait aujourd'hui que c'est un peu comme le souhait de plusieurs chrétiens. On le voit dans les livres qui sont publiés souvent. Je voudrais tellement voir Jésus devant mes yeux. J'ai l'impression que ça, si ça arrivait, ah, là, ma vie serait transformée. Là, ma vie ne serait plus la même. Là, ce serait différent. Mais non! Parce qu'on est oublieux, et puis même les expériences extraordinaires, après quelque temps, vous savez, ça finit par disparaître un peu. Mais nous avons ce privilège de voir dans l'Écriture toute la beauté du Seigneur. Vous voulez voir sa gloire? Lisez! Lisez la Bible avec attention. Vous allez voir ses gloires morales, ses perfections morales, sa grandeur, ses attributs, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa patience, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa souveraineté. On voit tout ça dans la Bible. Vous n'êtes pas impressionnés? Moi, ça me secoue de le dire. Bon, c'est l'après-midi, c'est plus difficile, hein? Moi, je parle, au moins, ça me garde... Vous qui avez les oreilles là, qui doivent fonctionner, c'est plus difficile, j'en conviens. Mais franchement, il faut que ça nous excite. De voir ainsi la gloire du Seigneur. Non, mais même quand Jésus était sur la terre, la plupart des gens qui l'ont vu, c'est qu'un juif, quoi. Nazareth. Galilée. C'est le territoire des païens, c'est le territoire des nations. Mais c'est qui, ça? Dans les films, on nous le présente avec des beaux yeux bleus, tu sais, il détourne les regards d'à peu près tout le monde. Mais non, il n'avait rien pour attirer le regard, dit Ésaïe le prophète. Absolument rien. Mais nous, d'une manière particulière, nous pouvons contempler le Seigneur. Mais ce que je trouve encore plus remarquable, c'est pas... En fait, c'est très peu la question de Jésus dans la gloire elle-même, en fait. Il y a bien la transfiguration, c'est vrai, on va le voir. Mais ce qu'on voit de Jésus, de sa gloire, c'est surtout dans son humanité, parce que c'est l'aspect de Jésus qui est le plus développé dans nos évangiles. C'est de voir Jésus en tant qu'homme sur la terre. Et en tant qu'homme, vous imaginez qu'on peut contempler la gloire du Seigneur. C'est magnifique parce que c'est ce que nous avons besoin comme modèle. Si c'était un sauveur dans le ciel qu'on avait vu uniquement dans le ciel, il ne vient pas sur la terre, ne meurt pas pour les péchés, mais il nous rachète de manière quelconque et il reste toujours là comme un peu un soleil brillant. Comment tu peux t'identifier à ça? Mais parce que c'est un homme sur la terre, nous pouvons suivre ses traces, en faire notre modèle par excellence et contempler dans la personne d'un homme une perfection morale d'une grande beauté. John Gifford Bellett a eu raison d'écrire un livre qui s'appelait « Les gloires morales de notre Seigneur Jésus-Christ ». Puis on le voit dans son humanité en particulier. Il a un caractère sans faille. Il a une manière de vivre, de se conduire, mais qui coupe le souffle, qui enlève tout sujet d'accusation. Il va falloir mentir pour s'en débarrasser, quoi, parce que c'est pas possible d'accuser un tel homme. Et Paul, dans ce verset, dit maintenant jusqu'à ce point que nous tous, nous avons le privilège de contempler sans aucun obstacle qui est le Seigneur parce que nous avons le privilège de le connaître par la lecture et par la prière. Bref, c'est la communion avec lui. Et c'est ce que Paul veut nous dire jusqu'à ce point. Mais dans la suite du passage, il faut que ça descende. Jusqu'à ce point, on pourrait arrêter là et ce serait magnifique, belle théorie. Wow! Nous tous, il n'y a plus d'obstacles, on contemple le Seigneur. OK! Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini, mais pas du tout. Il faut que ça ait un impact direct dans nos vies. Et ça, c'est la suite du passage. Et là, c'est le cœur du texte. Nous sommes transformés. Ça, c'est le cœur du verset, de tout le passage. C'est aussi le cœur, le point central d'une vie chrétienne authentique. Nous sommes transformés. C'est évident que ce verbe, il veut dire changer de forme, littéralement, mais ce n'est pas la forme extérieure dont il est question. Mais ça va quand même être vrai dans la résurrection. Ah oui, même l'extérieur, hein? Tout neuf, tout beau, parfait, corps glorifié. Mais ça, c'est à la résurrection, quand nous recevrons ces corps glorifiés. Là, ici, on parle d'un changement intérieur, un changement de caractère, un changement d'attitude. On ne parle pas de mieux connaître, d'être plus savant. On ne parle pas de mieux faire les choses, de mieux les comprendre, de s'impliquer davantage. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle quand on parle d'être transformé. On parle que le caractère, le cœur même, tout ça est en train de changer. Et cette transformation va être visible dans le cœur et dans le corps. Et dans la conduite, et dans la pensée, et dans les paroles, bref, partout. Ça passe par l'intérieur, tout est changé, voilà. Transformé à l'image du Seigneur, quelle transformation, mais magnifique. C'est d'ailleurs ce que Paul dit dans le seul autre texte, dans les Épîtres, où il y a ce verbe « transformer ». Nous allons le lire ensemble, il est là, c'est dans les Romains, au chapitre 12, verset 2, c'est dans la version Colombe, second Colombe, 1978. Nous lisons ceci. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà l'impact réel de la communion avec le Seigneur, du privilège que nous tous, nous avons de contempler. Le voile est enlevé sans obstacle, la gloire du Seigneur, c'est un impact direct. C'est pas possible que vous lisiez votre Bible à tous les jours et que votre vie ne change pas. En fait, si ça arrive, là, il faut se poser de sérieuses questions. Parce que si on cherche la face du Seigneur sincèrement et on lit la parole de Dieu avec, tout ce désir de vouloir être comme lui, elle ne retourne pas à lui sans effet. Elle va nous transformer. Le mot « intelligence » dont Paul parle, c'est la manière de voir les choses qui influence l'attitude. Ça part de l'intérieur et ça sort vers l'extérieur. On ne se conforme pas, on prend des décisions, on est obéissant, on veut... Oui, c'est un engagement, quoi. Je veux marcher avec le Seigneur, je ne veux pas suivre le monde et la façon de voir dans ce monde. Non, je ne veux pas être conformé, rendu semblable à eux, mais je veux être transformé, plutôt. Transformé depuis l'intérieur en contemplant le Seigneur. Je vais nous poser quelques questions. J'ai bien dit, je vais nous poser quelques questions auxquelles j'invite chacun et chacune ici à répondre dans le silence de son cœur. Je vous dis, ce n'est pas des questions faciles. Avons-nous changé dans ces derniers mois? Je ne vous demande pas si vous êtes plus actif ou vous comprenez, là. Avez-vous changé dans votre cœur? Dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre intelligence, quoi. Avons-nous changé dans ces derniers mois? Si oui, de quelle manière? Est-ce qu'on serait capable de produire une rédaction à partir de ces questions? Est-ce que vous pourriez faire le test? On ne va pas le faire maintenant. Mais imaginez de devoir répondre par écrit à ces questions. Avez-vous changé dans ces derniers jours? Si oui, de quelle manière? Sinon, pourquoi? Pourquoi? Si vous ne pouvez pas pointer là-dessus, vous risquez de même pas vous rendre compte que votre vie ne change pas. Pour le dire autrement, sommes-nous encore pareils à ce que nous étions il y a un an, ou 5 ans, peut-être même 20 ans? Je parle du caractère, bien entendu, pas de votre look ou de vos conditions de vie. Ça, on peut en parler, ça change. C'est pas trop difficile d'ailleurs à travailler là-dessus, mais le cœur et le caractère. Et c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un changement notable? Peut-être que nous avons changé, mais pas pour le mieux. Par exemple, par rapport à il y a un an, 2 ans ou 5 ans ou peut-être plus encore, êtes-vous plus impatient? Êtes-vous plus critique? Êtes-vous plus colérique? Ou bien c'est tout le contraire? Vous avez appris à supporter les gens, à compatir à leurs faiblesses, à agir ou même réagir avec douceur à leur endroit? Comment on peut s'identifier à ça? Cherchons-nous constamment, négativement, à faire valoir ou même imposer nos points de vue? Ou au contraire, cherchons-nous, comme nous avons vu ce matin, la manière de contribuer au bien des autres, de l'assemblée, de la majorité? Sommes-nous un obstacle ou une aide? Dernière question. Sincèrement, quand avons-nous prié la dernière fois ainsi? Seigneur, change ma vie. Transforme mon cœur, change ma vie. Amen! C'est quand la dernière fois? Oui, je sais, on chante « Change mon cœur, Seigneur », et etc., mais je ne parle même pas de chanter, je parle de vraiment briser devant le Seigneur « Change mon cœur ». Pourquoi? Ben, je me rends compte, je suis moins patient, je critique tout, peu importe. Ouais, je retombe toujours dans ce même fichu péché, puis ça ne va pas, Seigneur, change-moi! Et la recette, elle est là, la lecture, la prière, la communion avec les frères et sœurs, l'humilité, voire même l'humiliation, c'est bon ça. C'est bon. Moi, je crois que c'est le degré ou la proximité de communion que nous avons avec le Seigneur qui va nous permettre de bien répondre à ces questions. Êtes-vous vraiment proche du Seigneur? Je vois difficilement comment on peut être proche du Seigneur si nous passons plusieurs jours sans lire la Bible, par exemple, ou sans prier, ou sans... Franchement, oui, merci pour le repas, c'est tout bon, c'est tout bien. Mais là, faut faire un pas de plus. Il faut grandir dans la maturité chrétienne. Il faut dire au Seigneur, « Seigneur, je vois, il y a des choses dans ma vie. J'ai peur. Je veux te le confesser, te l'abandonner pour que j'aie du courage. » Vous voyez les apôtres, hein, ce qu'ils ont fait, ils sont menacés. « Seigneur, donne-nous du courage! » Ils étaient conscients, authentiques, vrais, sincères, honnêtes avec le Seigneur. Ils étaient remplis d'intégrité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont prêché tout de suite après. « Avec courage, Dieu va répondre. » Ah, c'était pas facile parce qu'ils ont été persécutés quand même, mais Dieu répond. Cette communion avec le Seigneur, c'est vraiment le facteur le plus important pour être transformé dans notre caractère. C'est l'élément le plus important. Ce n'est pas de se conformer à certaines règles, à certains points de vue ou façons de faire. Tout ça, c'est extérieur. Mais dans la communion avec le Seigneur, ça, c'est le facteur qui change des vies. Parce que plus nous sommes près de lui, plus nous réalisons qui nous sommes et qui il est. Et donc, parfois, on voit que c'est un petit peu incompatible. Et c'est là que cette prise de conscience va nous amener ensuite à vouloir, j'espère, lui ressembler. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer à expérimenter cette transformation de notre vie jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Nous allons devenir semblables au Seigneur, c'est ce que Paul dit dans la suite du verset. On le met en surbrillance. En la même image, Quand on contemple le Seigneur dans l'intimité de la communion avec lui, quand nous lisons, quand nous prions, quand nous sommes à l'écoute de ce qu'il nous dit à travers les autres, par exemple, bref, quand nous vivons chaque instant pour le Seigneur, c'est le laisser agir dans nos cœurs. Et c'est là que nous entrons dans ce processus d'être transformés en la même image. C'est-à-dire que nous allons de plus en plus lui ressembler. Mais est-ce que c'est possible sur la terre? Est-ce qu'on pensait que, oui, un jour on va ressembler à Christ, un jour, paf, tac, quand on sera pris dans le ciel et enlevé avec lui? Oh, ça commence maintenant, ça! Moi, ce qui m'attristerait, c'est que je sois exactement le même homme que j'étais l'année passée ou il y a 2 ans, ou peu importe. Je parle de mon caractère et mon attitude. Je ne veux pas être ce même homme. Il y a tellement de choses encore à changer, à transformer, mais je ne suis pas découragé. Parce que le Seigneur est bon, il fait les choses. Voilà pour qu'on puisse suivre le rythme. Et nous allons devenir de plus en plus semblables à lui. En la même image, ça désigne une image vivante. C'est une expression qui décrit des personnes qui partagent certaines caractéristiques communes avec celui que nous sommes appelés à refléter dans nos vies. Nous devons avoir des points communs entre nous et le Seigneur. Sinon, il n'y a pas de transformation en son image. Mais si on est près de lui, il y a quelque chose qui doit ressembler au Seigneur en nous. Je viens de penser à un verset où des chefs religieux juifs ont dit qu'ils reconnaissaient les apôtres pour avoir été avec Jésus. Ils ont reconnu ça par leur coupe de cheveux, ou la tunique, ou peut-être l'accent galiléen. Le Seigneur devait l'avoir, cet accent, il était de la Galilée. Je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est parce qu'il ressemblait à celui dont il venait de se débarrasser. Et ça, là, c'était pas une bonne nouvelle pour eux, là. Mais c'est quoi l'idée? On se débarrasse de lui, puis il y en a d'autres qui lui ressemblent. C'est tellement vrai, et ça choque tellement et dérange tellement les gens, que c'est précisément pour se moquer de ceux qui ressemblent à Christ qu'on va les appeler chrétiens. Et il reflète son caractère et son attitude. Il parle comme lui. Ce sont des petits chrétiens. C'est une façon de se moquer, ça. En fait, tous les exégètes sont d'accord avec ce sens, probablement, de moquerie en disant « des chrétiens ». Ça ne devait pas être quelque chose d'honorable de porter le nom d'un malfaiteur crucifié par les Romains, franchement. Mais ça, c'était aux yeux du monde. Mais porter le nom glorieux de Christ... Quel dommage que ce nom chrétien soit si entaché aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons. Parce que c'est le nom de Christ. Et être chrétien, c'est porter un nom glorieux, celui de Christ. Il ne faut pas que ça se limite à un nom. Lui, il est chrétien. Déjà, ça dit quelque chose, mais franchement, il faut que la vie, le caractère, la conduite aille avec. Et une telle transformation vers... Oui, la manifestation du caractère et la conduite de Christ, ça ne se fait pas comme ça. Et ça ne se fait pas en un instant, en un clin d'œil. L'enlèvement va se passer comme ça, mais pas la transformation qu'on est en train de vivre. Elle prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette nature pécheresse présente en nous. Ce vieil homme a perdu son pouvoir, il a été crucifié en ce sens que nous ne sommes plus obligés de pécher. Mais il est toujours là. Toujours prêt à tendre la jambe pour nous faire trébucher, paf, et voilà. Mais c'est à cause de ça que la transformation prend du temps, en quelque sorte. Ça prend des années, voire toute une vie. Et puis même à la fin de la vie, on ne sera pas encore arrivé à la perfection. Mais ce n'est pas décourageant, parce que comme Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Ça s'en vient. Si Paul a dit cela dans ses épîtres, c'est une vérité, c'est pour nous. On peut se l'approprier aussi. Mais parce que nous avons le privilège, nous tous, comme on a vu au début du verset, d'avoir cette communion avec le Seigneur, de le voir, de le contempler sans obstacle, le voile est enlevé. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est la suite du verset. De gloire en gloire. Ah, c'est bien souligné. C'est une expression un petit peu particulière quand même parce qu'elle signifie, après tout, d'étape en étape ou de progrès en progrès. Mais pourquoi pas le dire ainsi? Pourquoi ne pas dire simplement d'être transformé, en fait, à son image, mais d'étape en étape, de progrès en progrès? Ah, parce que c'est trop beau, une vie transformée. C'est trop beau, parce que quand la vie est transformée, ce n'est pas notre vie qui paraît, c'est la vie de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est à ce moment qu'on commence de plus en plus à voir la gloire de Christ en nous. Voilà pourquoi c'est présenté de cette façon-là. Voilà pourquoi on utilise le mot « gloire », tout simplement pour rappeler que la transformation que nous sommes appelés à vivre est un changement qui doit laisser paraître de plus en plus la gloire de Christ dans nos vies. Et la gloire de Christ en tant qu'homme, son caractère infaillible, sa conduite irréprochable. C'est ce que nous sommes appelés à vivre et à refléter de plus en plus. On va se servir de la Bible pour faire une illustration de ce point-là. Nous allons considérer un autre passage où le mot « transformer » en fait apparaît en lien avec la gloire, mais il n'est pas traduit par « transformer ». Vous connaissez le passage, c'est dans Matthieu chapitre 17, verset 2. « Et il fut transfiguré, transformé ». Devant eux. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est transformé ou transfiguré? Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le même verbe que transformé, transfiguré, métamorphéo. Il est simplement traduit d'une façon différente. Mais en fait, on voit la connexion, on voit très bien le lien. Pourquoi c'est le même terme? Dans ce passage-ci de Matthieu, on voit comment se manifeste la transfiguration du Seigneur ou sa transformation. Qu'est-ce qui se passe? Il apparaît en gloire. C'est ça qui se passe. La transfiguration, c'est un preview, un prévisionnement de la gloire de Christ. Parce que c'est vrai qu'avant ce moment-là, Jésus a simplement l'apparence d'un Juif bien ordinaire qui n'a rien pour attirer nos regards. C'est vrai, mais dans son caractère, on pouvait déjà voir cette gloire. Mais maintenant, attention, mais on voit vraiment en lui la gloire, elle est visible, elle est palpable, elle est même partout sur la montagne. Elle entoure les disciples. Ils savent c'est quoi cette Shekinah, cette gloire hébraïque, là, cette présence glorieuse, lumineuse de Dieu même. Bien, Jésus la diffuse. Waouh! Il est le reflet de sa gloire, dira l'Épître aux Hébreux, mais pas dans le sens de la refléter, de la diffuser. Elle part de lui. Il est la gloire. Alors, le phénomène de Jésus qui est manifesté tout à coup en gloire, ça s'appelle la transfiguration et ça se trouve à être exactement le même mot qui parle de nous quand nous sommes transformés, transfigurés, de gloire en gloire. Ah, nous, on n'apparaît pas encore comme le soleil. Ah, pas encore. Mais ça va venir. Mais dites-moi, est-ce qu'il commence à sortir quelques rayons de votre vie? C'est ce que nous sommes appelés. À vivre, de voir un peu plus la gloire de Christ. Là, attendez-vous pas à ce que les gens du monde vous regardent et disent « Wow! » Je vois la gloire de Christ. Et c'est ce qu'ils vont quand même voir. Et les gens vont être interpellés, tous ceux que le Seigneur va attirer à lui. Peut-être qu'il y en a que ça ne les importe même pas. Mais il y en a qui vont la remarquer, cette gloire. Autrement, pourquoi nous restons ici-bas, le Seigneur? Il n'a qu'à nous reprendre dès le moment où on est sauvé et on part tout de suite dans la gloire. Il n'y a pas tout ce chemin sinueux, difficile, appelé la sanctification progressive. Franchement, on arrive tout de suite dans la gloire. Youpi! Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Il veut nous changer, transformer petit à petit, d'étape en étape. Mais il faut que ça arrive. De là, la question tout à l'heure, quand avez-vous demandé ça au Seigneur? Sérieusement, la dernière fois. Parce que ce n'est pas un changement qui peut se produire par nos propres forces, ce n'est pas possible. Et comme Paul va le dire en conclusion, ça va être l'œuvre du Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, mais par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. C'est pourquoi la fin dit, là je souligne particulièrement la distinction qu'on voit par la virgule. On a « par le Seigneur, par l'Esprit » dans la traduction second 1910, alors que dans la plupart des versions, c'est « par l'Esprit du Seigneur ». C'est un petit peu moins distinct qu'ici. Et donc, cette transformation va se produire comme par le Seigneur. Et là je vais insister sur cette phrase, je crois qu'elle devrait apparaître, voilà. Comme par le Seigneur. Comment faut comprendre le « comme » Qu'est-ce que ça veut dire, être transformé? Pourquoi pas dire tout de suite « par le Seigneur » Il me semble que c'est plus clair. Pourquoi rajouter un mot? Ouais, vous savez à quel point j'aime me préoccuper de ces détails, parce que je me dis, il y a une raison. Pourquoi on le dit de cette façon? Eh bien, simplement parce que c'est une manière de souligner la façon dont cela va arriver et qui va opérer ce changement. D'autres traductions par équivalence dynamique, comme la Bible du Semeur, a traduit ainsi, « C'est là l'œuvre du Seigneur. » Comme par le Seigneur, c'est comme ça. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est ainsi qu'il va faire les choses. Comment? Par l'Esprit. Pensez pas vous lever un matin en disant, « Aujourd'hui, je vais prendre le contrôle sur mes émotions, mon comportement, mon attitude. Je vais contrôler mon cœur, toutes mes pensées. Je vais gérer tout ça, mais ah, regardez-moi, ça va être merveilleux. » J'allais dire, « Regardez-moi, en bon québécois. » Non, c'est pas comme ça, ça va arriver. Ah, en fait, j'ai essayé plusieurs fois, puis c'est pas concluant. J'arrive pas. Mais par l'Esprit du Seigneur, c'est là l'œuvre du Seigneur. Encore la nouvelle français courant. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui transforme nos vies par l'Esprit qu'il a mis en nous. Et en fait, ici, ce que Paul est en train de dire, c'est ce qu'il a dit dans le verset précédent, mais nous ne l'avons pas lu. Mais nous allons lire à l'écran, mais dans une autre version. Je l'ai mis encore dans la version Colombe. Le verset 17, hein, c'est juste avant. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, où est l'Esprit du Seigneur, pardon, là est la liberté. » Quel verset extraordinaire! Et la fin du 18, elle confirme ce qu'il vient de dire ici. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » En disant « le Seigneur, c'est l'Esprit », Paul, il n'est pas en train de confondre deux personnes de la Trinité. Pas du tout. Il insiste sur l'unité parfaite qui existe entre les deux. C'est comme quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Mais ici, c'est « Moi et l'Esprit, nous sommes un. » Si ce n'est pas dit dans ces mots, c'est exactement ce que le texte ici reflète. C'est cette vérité que nous avons. Alors, quand Paul dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle que nous avons été libérés de la condamnation du péché et de la mort et du pouvoir du diable. On a été libérés de tout ça. Mais laissez-moi vous proposer une autre libération. Une autre délivrance qui est liée, hein, qui est liée de très près, à être libérés de nous-mêmes. Moi, je crois qu'on peut résumer toute la vie chrétienne personnellement. Là. C'est vraiment, j'ai cette vision de la vie chrétienne. Tu commences par être libéré de la condamnation du péché, de la mort, de l'enfer, et ça, c'est tout ce que tu reçois quand tu es sauvé. C'est une grande libération. Mais l'autre libération, c'est celle où tu es appelé à être de plus en plus libéré de toi-même. Tu es appelé à être transformé, à être changé. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit merci au Seigneur de ne pas me laisser tel que je suis. Vous vous rappelez ce cantique, hein? Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, prends-moi. Mais le Seigneur, il nous aime vraiment pour nous prendre tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il ne nous laissera pas comme nous sommes. Il veut nous changer. Il veut nous transformer. On est libéré de plus en plus de cette mauvaise nature pécheresse. Donc, autrement dit, quand nous sommes en communion avec le Seigneur et que son Esprit transforme nos vies depuis l'intérieur, nous sommes de plus en plus libres, de plus en plus libérés de nous-mêmes pour refléter de plus en plus la gloire du Seigneur, c'est-à-dire son caractère et sa conduite. Que le Seigneur nous délivre de nous-mêmes. Imaginez, et portez attention, j'ai presque terminé. Imaginez ce que seraient nos vies, nos familles, nos relations avec les gens du monde, dans nos assemblées, avec chaque croyant, si chacun de nous, dans la communion avec le Seigneur Jésus, nous nous laissions transformer ainsi par lui. Imaginez! Les querelles disparaîtraient, il n'y aurait plus de division, les désaccords seraient gérés beaucoup mieux maintenant, et au lieu de contester, on se rallierait aux autres. Ouais, ça ressemble un peu à une vision utopique. Mais attention, c'est réaliste. Ce n'est pas utopique de penser que si nos vies sont transformées, ça va aller beaucoup mieux dans notre témoignage, dans nos relations avec les autres, etc. Même dans nos vies d'assemblée, et particulièrement même dans nos vies d'assemblée. Moi, j'aimerais qu'on relise une dernière fois le verset et que le Seigneur nous soumette à l'autorité de sa parole pour mettre en pratique sa parole et devenir ainsi une Église transformée par Christ qui va diffuser un parfum de Christ. Amen! C'est ça que nous voulons, que nos vies soient transformées. Lisons une dernière fois le verset. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Quel verset extraordinaire!